Libradio, www.libradio.org. Le frisson de la radio. Le murmure des mots. Le soubresaut de l'idée. Et le séisme de l'acte. www.libradio.org.
Alors nous sommes le 14 juin au HUG, précisément au centre de transfusion sanguine, en compagnie de la doctoresse Waldfogel Abramowski. Merci à vous de nous recevoir aujourd'hui, alors que vous travaillez, et puis que j'imagine qu'au centre de transfusion, le travail est titanesque. Alors, c'est aujourd'hui la journée mondiale de la transfusion sanguine. Donc, si vous le voulez bien, on va d'abord dire que vous êtes effectivement la médecin responsable du centre de transfusion sanguine, et également hématologue. Voudriez-vous nous dire en quelques mots à quoi consiste le métier d'hématologue ?
Le métier d'hématologue consiste à s'occuper de toutes les maladies qui sont en lien avec le sang, les cellules du sang, et puis aussi le plasma qui l'entoure. Et il y a plusieurs branches d'hématologie connues, celles qui sont plus axées sur les problèmes de cancer liés aux cellules du sang, et puis celles qui sont liées plutôt aux problèmes de coagulation et de saignement.
Très bien. Alors, on commence. Qu'est-ce que le sang ? À quoi sert-il dans l'organisme et de quelle quantité les humains en sont-ils pourvus ? On verra si, effectivement, il y a des variations entre peut-être le genre, l'âge ou la morphologie.
Alors non, le sang du petit enfant jusqu'à la personne âgée, c'est le même. C'est une solution de protéines qui compose le plasma avec des anticorps. Et à l'intérieur de cette soupe se trouvent des cellules, les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes.
Vous venez de dire un mot qui m'a l'air assez important, anticorps et antigènes. Voudriez-vous compléter qu'est-ce que c'est que les anticorps et les antigènes ? Parce qu'on va voir qu'ils ont leur importance fondamentale, essentielle dans la transfusion du sang.
Voilà. Alors le sang dont l'essentiel rôle est de transporter de l'oxygène à l'organisme et puis également de transporter des nutriments aux tissus a aussi un rôle de transporteur d'anticorps. Il est là pour en fait faire circuler les anticorps qui sont nos surveillants pour éviter qu'on soit infecté par des micro-organismes. Donc c'est les garants de contrôle de l'infection de notre corps et ils circulent dans le sérum. Par ailleurs, les globules rouges sont individuels et on a découvert par la découverte de Karl Landsteiner, on a mis en évidence qu'à la surface des globules rouges se trouvaient des antigènes qui montraient le caractère individuel du sang. Et tout le monde ne peut pas donner à tout le monde son sang, parce que les anticorps qui circulent ne sont pas forcément d'accord de tolérer des globules rouges couverts d'antigènes inconnus.
Et à quoi servent-ils ces antigènes ?
Alors ces antigènes, ils ne servent à rien. Ils sont juste là pour s'opposer à nos transfusions. Probablement qu'ils avaient un rôle un jour, mais chez nous aujourd'hui, ils ne servent plus à rien. C'est des sucres. C'est des sucres qui ont des caractéristiques qui font que c'est des anticorps différents qui réagissent avec eux. Et pour l'instant, le seul problème qu'on a avec ces antigènes, c'est qu'ils s'opposent aux transfusions.
Que se passe-t-il si, par erreur, des mauvais anticorps sont amenés à entrer en contact avec des antigènes ?
Alors, il peut y avoir un accident grave avec, en fait, une destruction du globule rouge. On appelle ça une hémolyse. Une hémolyse qui peut être assez retentissante et puis qui peut même conduire jusqu'à des défaillances d'organes, comme on dit, ou même jusqu'au décès du patient. Donc, une erreur de transfusion dans les groupes ABO peut être fatale.
C'est également le cas lors de certains accouchements où, à ce moment-là, il se peut que le nourrisson ne soit pas compatible avec le sang de la mère.
Alors, pour ce qui est du groupe ABO, qui est le groupe essentiel dans la transfusion, curieusement, ça se passe relativement bien. Une maman O qui fait des anticorps anti-A, anti-B tolère assez bien cet enfant A. On ne s'explique pas tellement, mais très rarement on a un petit peu des hémolyses quand il y a une incompatibilité, mais c'est rarement.
Revenons-en à la composition du sang avant de parler, à proprement parler, des transfusions. En quelle proportion sont présents les différents ingrédients que vous avez nommés, globules rouges, globules blancs et plasma?
Il y a beaucoup plus de globules rouges. Il y a un globule blanc pour 700 globules rouges. Et puis, il y a après aussi des plaquettes dans un nombre à peu près semblable. Les globules rouges sont des cellules de taille moyenne, très visibles. Les globules blancs sont de taille relativement variable parce qu'ils ont des fonctions différentes. Et les plaquettes sont 10 fois plus petites. Et elles servent en fait à assurer la coagulation initiale quand on saigne.
D'accord. Donc pour résumer, les globules rouges, a priori, transportent l'oxygène.
Oui.
Les globules blancs, parmi lesquels font partie les macrophages.
Exactement. Les globules blancs sont là pour la défense contre les organismes étrangers. Mmh. Et les plaquettes sont là pour faire le petit caillot qui vient boucher un vaisseau sanguin quand il y a une hémorragie. C'est ce qu'on appelle l'hémostase primaire. C'est les premières cellules qui viennent s'agglutiner à l'endroit d'un saignement.
C'est également les athéromes les responsables d'accidents cardiovasculaires?
Non, pas spécialement. Non, c'est plutôt des problèmes de cholestérol et des problèmes de coagulation, de protéines de coagulation.
D'accord. Alors, qui peut donner son sang?
Alors, la loi suisse, la loi sur les produits thérapeutiques, dit cela. Le don de sang ne doit pas nuire au donneur et au receveur. De là partent plusieurs restrictions. Il faut que le sang que le donneur va donner soit sûr pour le receveur. Donc tous les risques infectieux de transmission de micro-organismes liés à des situations à risque, à des voyages, à des infections en cours, tout cela fait qu'il y a des restrictions à donner son sang. Ensuite, il faut que le donneur soit en bonne forme et il ne faut pas que le don ne nuise à sa santé. Donc, le donneur ne doit pas avoir de maladie cardiaque, le donneur ne doit pas avoir de maladie respiratoire, le donneur ne doit pas souffrir de maladies neurologiques, ne doit pas avoir eu d'accident cérébral dans le passé. Donc, il y a toutes sortes de conditions limitantes qui sont parfois transitoires et parfois définitives qu'il faut respecter.
Et alors, de cette manière-là, les personnes qui viennent pour donner sont-elles dépistées d'une certaine manière, en tout cas passent-elles un examen médical pour s'assurer que leurs propos soient exacts? Tout simplement parce qu'on peut avoir oublié quelque chose ou on peut ne pas savoir le formuler.
Voilà. Alors à l'entrée, le donneur est soumis à un questionnaire sur sa santé, sur son état de santé, sur ses voyages récents. Donc on a parlé de toutes les situations à risque d'infection. Et ensuite, qu'il complète lui-même, qu'il signe lui-même en donnant son accord aussi à donner son sang. Et là, il rencontre ensuite une infirmière qui l'aide encore à vérifier ses questions et qui détermine son aptitude au don.
D'accord. À quelle fréquence, une fois que l'on devient donneuse d'honneur, à quelle fréquence peut-on donner son sang et qu'est-ce que cela implique?
Alors, on l'a dit, donner son sang, c'est donner beaucoup de globules rouges et les globules rouges sont très riches en fer. Si bien qu'on ne peut pas se permettre de donner trop son sang, parce que sinon on perd toutes ses réserves en fer, donc on doit donner son sang à des intervalles quand même relativement espacés. Un homme qui a un plus grand volume sanguin a plus de capacité à donner son sang, et donc une femme peut donner son sang tous les 4 mois, et un homme peut donner son sang tous les 3 mois.
Et qu'est-ce que cela implique-t-il en termes de fatigue ou de, je ne sais pas, est-ce qu'il faut s'alimenter d'une certaine manière ou plutôt s'hydrater en fait?
Alors il est bien de s'hydrater correctement. L'alimentation, il n'y a aucune restriction particulière. Il faut venir en bonne forme physique et voilà, ça suffit. Il n'y a pas d'autre.
Les personnes diabétiques peuvent-elles donner, puisqu'on sait que c'est un peu le mal du XXIe siècle, type 1, type 2, les deux types peuvent-ils devenir des donatrices, donateurs?
Oui, les diabétiques peuvent donner leur sang, mais les diabétiques qui sont traités par insulinothérapie, par des injections d'insuline, ne peuvent pas donner leur sang, parce que ça induit des complications pour le receveur.
Ah, pour le receveur. Oui. Le donneur, lui, ses glycémies ne peuvent pas particulièrement varier dans ce cas.
Alors, c'est plus pour le receveur. On peut tout à fait tolérer des glycémies plus ou moins contrôlées, à une certaine limite quand même, mais le problème, c'est surtout l'insuline.
D'accord. Pourquoi?
Parce qu'elle peut agir sur l'organisme
bien sûr.
Du receveur.
Eh bien sûr, absolument. Le sang, ce sang qui est recueilli, est-ce qu'il est filtré, nettoyé, épuré, ou est-ce qu'on y ajoute des choses, des additifs, je ne sais pas.
Oui, alors le sang, le sang, il n'est pas donné, on ne donne pas du sang complet comme ça. Et d'ailleurs, il est intelligemment fractionné pour qu'on puisse en ressortir le maximum de produits. Donc, on donne du sang total. Et puis ensuite, ce sang, il part dans un laboratoire, il est fractionné, comme on dit, on le centrifuge. Et puis, on prend une partie du plasma qu'on congèle. Le plasma, il est destiné aux patients qui font des hémorragies graves ou qui ont besoin d'anticorps. Et puis, la partie la plus précieuse et la plus fondamentale, qui sont les globules rouges, qui sont mis dans une solution de conservation. Donc, c'est comme des petits pois dans une boîte de conserve, hein. Dans une solution qui leur permet d'être conservés pendant plus de 40 jours, ce qui est bien agréable. Donc, on a d'une part un concentré érythrocytaire et puis d'autre part du plasma. L'interface, parce qu'il y a les globules blancs qui sont, et les plaquettes qui ne sont pas encore considérées, cette interface est parfois utilisée et fusionnée avec 4 autres dons et puis on fait un concentré plaquettaire avec ça. C'est pourquoi on demande toujours aux donneurs de sang total s'ils n'ont pas pris d'aspirine ou de médicaments qui influencent sur les plaquettes, parce qu'on essaye tant qu'on peut de récupérer aussi cette interface pour faire des concentrés plaquettaires.
D'accord. Et donc là, c'est le nouveau problème de l'anticoagulation, enfin la coagulation.
Voilà, exactement.
J'entends bien. Alors vous l'avez dit, il se conserve 40 jours, c'est ça?
Alors le concentré érythrocytaire se conserve 40 jours. Le plasma, comme il est congelé, peut se conserver 2 ans. Et puis par contre, le concentré plaquettaire se conserve que 7 jours parce qu'on ne peut pas le réfrigérer. Donc en fait, pour des risques microbiens, il ne peut pas être utilisé plus longtemps que 7 jours. Donc c'est assez tendu.
D'accord, ouais, c'est un peu un flux tendu, si j'ai bien compris. Alors on va doucement arriver à la partie où on va parler, à proprement parler de la transfusion. J'aimerais savoir pour quelles raisons habituellement est-ce qu'on est transfusé, est-ce qu'on reçoit du sang?
Alors, si on parle de globules rouges, parce que c'est principalement la transfusion la plus fréquente, on reçoit du sang parce qu'on est profondément anémique, par exemple, parce que, par exemple, on a une maladie du sang qui fait, ou qu'on a une grosse chimiothérapie importante qui fait qu'on n'arrive plus à fabriquer en suffisance des globules rouges. Puis des fois, c'est parce qu'on en perd des globules rouges, donc dans des hémorragies, donc au bloc opératoire, on transfuse énormément, et dans les cas d'accidents graves, les accouchements, donc d'un côté l'hémorragie, et puis d'un côté le défaut de production qui justifie en fait les transfusions.
Ok. Alors quelle est la situation en Suisse, justement, du don du sang, en Suisse ou en Suisse romande ou à Genève?
Alors en Suisse romande, au niveau suisse romand, on se porte relativement bien. Au niveau genevois, on n'est pas du tout autosuffisant. Depuis des années, on bénéficie du soutien des centres de transfusion voisins qui nous fournissent à peu près 25% de l'approvisionnement. Donc on a maintenant une collaboration avec nous, avec la région de Neuchâtel, Jura et Fribourg pour avoir un bon approvisionnement au niveau genevois.
Ok. Juste un petit détail concernant les... Alors on l'a dit, hein, les raisons de la transfusion peuvent être de maladie, mais également d'opération. Est-ce qu'on pratique beaucoup l'autotransfusion? Est-ce que les patients, voilà, dont on sait en amont qu'ils vont être opérés, eh bien, est-ce qu'on pratique voilà, une prise de sang automatiquement pour avoir une forme d'autorégulation qui ne pèse pas sur les réserves de sang?
Alors on le fait, mais on le fait occasionnellement parce que, en fait, point de vue timing, c'est pas évident. Ça doit être une chirurgie qui est élective, et puis il faut se préparer 4 semaines à l'avance. Il faut manger du fer, parce que comme j'ai expliqué, donner son sang fréquemment, c'est pas si facile. Donc il faut aussi préparer les gens avec une cure de fer, mais ça se fait. Ça se fait sur la volonté des patients quelquefois, et puis dans d'autres situations rares, c'est quand on a des donneurs qui ont un sang qui est des patients, pardon, qui ont un sang qui est tellement rare qu'il n'est pas possible de trouver des donneurs compatibles. Donc alors, on le fait dans ces situations exceptionnelles.
Alors justement, on va y arriver à ces différents types de sang. Alors quels sont-ils? Là, je pensais effectivement au type de sang, les incompatibilités sanguines, les groupes sanguins et les facteurs rhésus.
Alors effectivement, on a parlé de l'ABO, parce que c'est la journée de l'ABO, hein. Et puis c'est l'anticorps... c'est les anticorps les plus dangereux, les plus importants en transfusion. Dès la naissance, après 6 mois d'âge, on est déjà en train de produire des anticorps anti-A, anti-B. Donc c'est vraiment la barrière de l'ABO est absolument fondamentale en transfusion. Après, il y a environ maintenant 360 autres antigènes érythrocytaires, donc on ne va pas réciter toute la famille, mais simplement pour expliquer qu'ils sont plus ou moins puissants dans leur effet immunogène, et eux peuvent induire des anticorps. Ce n'est pas qu'on naît avec, mais ils peuvent induire des anticorps. Donc après une grossesse ou une transfusion, on peut tout d'un coup commencer à faire un anticorps, par exemple typiquement, comme vous avez cité, l'anticorps anti-D. L'anticorps anti-D, une fois qu'il est là, il faut le respecter parce qu'il est dangereux. Donc c'est pour ça que, étant donné que ce fameux antigène D est à la fois très immunogène, hein, il stimule beaucoup l'immunité, et à la fois quand l'anticorps est établi, il est dangereux, on fait de la prévention. Et donc quand on ne connaît pas le groupe sanguin de quelqu'un, on donne classiquement du O parce qu'on est sûr qu'il n'y aura pas d'accident, et aussi du D en vue d'une prévention du développement d'un anticorps anti-D. De là, la raison pour laquelle les donneurs O, D négatifs sont considérés comme des donneurs très précieux et compatibles avec toute la population.
Voilà, c'est de eux qu'on parle lorsque l'on parle de donneur universel.
Exactement.
Très bien, très bien. Antigène anticorps, on en a déjà un petit peu parlé. Donc ça, c'est vraiment cette combinaison, cette association répulsion, pourrait-on dire, qui est au cœur vraiment du danger, si on pourrait dire, de la transfusion.
Exactement. C'est vraiment un des plus grands dangers de la transfusion.
Y a-t-il d'autres risques lorsque l'on transfuse une personne auxquels il faut faire attention ? Typiquement, une personne qui reçoit du sang dont on sait avec lequel qu'elle est compatible, y a-t-il quand même des complications qui peuvent apparaître, ou en tout cas une prudence à avoir ?
Oui, il y a des complications qui peuvent apparaître. Alors, on a parlé d'antigènes anticorps, on a quand même dit qu'il y avait 360 antigènes, donc il y a de quoi faire des complications. Le rôle du laboratoire de distribution, c'est de bien vérifier le sérum du patient pour être sûr qu'il n'a aucun anticorps incompatible avec le sang qu'il va recevoir. Donc ça, c'est la partie très importante en immuno-hématologique. Après, il y a des complications bien évidemment infectieuses, donc il ne faut pas que le sang soit contaminé par une bactérie, donc toutes les précautions que nous prenons au prélèvement et au traitement du sang. Il y a aussi des complications infectieuses d'ordre viral, raison pour laquelle on est absolument intransigeant sur les voyages et les séjours réalisés par les donneurs, parce que les moustiques sont vecteurs de nombreuses maladies très dangereuses pour le receveur. Après, il y a des complications allergiques, parce que quelquefois, dans le plasma qui reste dans le concentré érythrocytaire, il y a des protéines allergisantes pour le receveur, donc il y a des receveurs qui reçoivent, qui font des réactions assez violentes. Après, il y a des complications liées à de la fièvre, des complications respiratoires un peu plus complexes à expliquer, mais qui peuvent aussi survenir plus rarement, mais qui sont aussi relativement dangereuses. Donc non, le sang n'est pas un médicament sans risque.
Je me souviens plus si on l'a précisé tout à l'heure, mais effectivement, ce sang est-il d'une certaine manière, alors on l'a dit qu'il était fractionné, mais voilà, est-il désinfecté d'une certaine manière ?
Oui, alors le problème c'est que les cellules, elles n'aiment pas tellement les désinfections. Elles n'aiment pas tellement la chaleur, elles n'aiment pas tellement la congélation, donc on ne peut pas faire tout ce qu'on veut avec les cellules. Ce qu'on a découvert récemment et qu'on applique maintenant en routine, c'est qu'on procède à une inactivation des concentrés plaquettaires avec une technologie aux UV. Où on met d'abord une substance de type psoralène et puis après on fait bronzer la plaquette avec des UV afin que ça inactive, en fait ça vient s'intercaler dans l'ADN de toutes les cellules qui passent par là et donc les microbes aussi, et ça détruit l'ADN et l'ARN microbien, si bien qu'on arrive à baisser le niveau de risque mais pas l'annuler pour les concentrés plaquettaires. Pour des raisons de spectre lumineux, cette technologie ne convient pas aux globules rouges.
Ok. Est-ce qu'il est bien, et la question est pour les personnes qui donnent leur sang, sont-elles munies d'une carte de donneuses et de donneurs, et sur cette carte, est-ce qu'il est utile de connaître en amont justement le facteur rhésus, par exemple, le groupe sanguin, et quelques informations concernant justement peut-être des allergies connues ou des problématiques connues ?
Alors oui, on offre une carte de groupe sanguin à nos donneurs après toujours deux dons, pour être sûr que sur deux dons, on ne s'est pas trompé de groupe sanguin, parce que comme je vous ai dit, c'est fondamental de ne pas se tromper. Et ensuite, le donneur peut profiter de cette carte. Il est aussi enregistré, il peut éventuellement comme ça s'enregistrer son groupe sanguin dans un laboratoire, et puis ça fait office de première prise de sang quand on détermine son groupe sanguin dans une clinique ou un hôpital.
Et à partir de là, la personne peut par exemple donner, si elle est en vacances dans un endroit qui connaît tout le monde une situation de crise, elle pourrait se rendre au dispensaire ou à l'hôpital local pour dire « je peux donner mon sang ». Je suis déjà donneuse de sang.
On peut, dès la première fois, donner son sang sans carte, sans rien. Ce n'est pas du tout la limite. Non, non, on offre cette carte pour fidéliser les donneurs. Okay. Et puis, ça peut leur être utile quand ils deviennent des patients. Mais on peut toujours donner son sang.
Quelle proportion de donneuses d'honneurs potentielles font finalement le pas et combien de temps reste-t-il? Est-ce que je veux dire dans le sens
oui.
où...
Alors, en Suisse, on estime qu'on est à peu près dans les 6-7% de la population qui donne son sang. Il y a des régions, particulièrement dans les villes, où c'est difficile de se déplacer, où les mentalités sont peut-être aussi un peu différentes, où on donne moins. Les régions de campagne, typiquement régions rurales, sont des régions très intéressantes pour le don du sang. Et
est-ce que les donatrices et donateurs sont fidèles? Est-ce qu'ils restent longtemps?
Alors, c'est ça. Alors,
l'endurance connaît des limites également?
Alors, l'endurance, curieusement, ne connaît pas trop de limites. On a des donneurs d'une fidélité qui viennent de manière très assidue, qui sont assez impressionnants. 100 dons, 150 dons, donnent des plaquettes tous les 2 mois. Enfin, vraiment des donneurs assez impressionnants. Donc, il y a un groupe de donneurs forts. Très fort. Et puis, la difficulté qu'on a, c'est surtout le recrutement des jeunes. Parce que probablement les jeunes ont peu de temps, ils sont trop souvent déçus par les limitations qu'on leur impose pour donner leur sang. Et puis, moi, je pense que quand même, ils ont peu conscience du rôle encore fondamental du don du sang. Parce qu'il y en a tellement de médicaments et tellement de moyens qu'on peut commencer à croire qu'on pourrait aussi se passer de concentrés érythrocytaires. Mais l'année passée, ici à Genève, on a donné plus de concentrés érythrocytaires qu'en 2017. Il y a encore besoin pour soutenir la médecine de don du sang.
Voilà, il semble lancer cet appel tout de suite. Hein, les personnes qui les écoutent à partir de 18 ans,
dès l'anniversaire des 18 ans, on donne son peu de sang.
Alors justement, quels sont les niveaux de différents stocks ici à Genève?
Genève a un rôle important parce qu'il faut approvisionner l'hôpital universitaire qui a une activité médicale assez intense dans des domaines où la consommation de transfusion est importante. Donc l'hôpital draine aussi des patients d'autres parties de la Suisse pour des transplantations, pour des traitements complexes, raison pour laquelle on est dans une région relativement gourmande en produits sanguins, ce qui explique un petit peu notre inadéquation par rapport aux apports.
Alors, et notamment les sangs rares, j'imagine qu'ils sont extrêmement précieux, et y a-t-il des stocks effectivement qui sont en phase d'alerte, j'ai envie de dire?
Alors, le sang, il y a rare et très rare. Le O négatif, c'est 7% de la population, donc c'est relativement difficile d'en avoir. Et puis, comme on l'a dit avant, il se donne des fois aussi à des patients A et B et AB. Donc, raison pour laquelle c'est un sang qui manque pratiquement tout le temps. Donc, il faut toujours soutenir beaucoup les donneurs O négatifs. Et il y a du sang très rare. Ça, c'est quelqu'un qui est malheureux, un malheureux patient qui, sur son globule rouge, n'a pas un antigène extrêmement fréquent dans la population. Si bien que dès que son organisme rencontre le globule rouge de quelqu'un d'autre, il réagit. Et donc, ces donneurs sont d'une rareté de 1 sur 10 000, 1 sur 50 000. Et il y a des banques de sang rares à travers le monde qui congèlent du sang de ces donneurs rares. Il n'y en a pas en Suisse, mais on collabore avec les pays voisins pour s'occuper de ce genre de patients.
Okay, donc là, ça peut être des fois problématique, en tout cas. Il faut être vraiment attentif.
Alors, ça peut être des problèmes dramatiques où la transfusion est impossible.
Et dans ce cas-là, y a-t-il des solutions alternatives?
Alors, pas encore, non. On commence à faire... on a démontré en 2011 qu'on pouvait créer dans les laboratoires à partir de cellules souches des globules rouges finis, hein, aboutis. On les a retransfusés aux volontaires qui s'étaient fait prélever des cellules souches. Ça marche. Okay. Et puis, ce qu'on arrive à faire tout récemment dans les laboratoires, mais encore dans le laboratoire, c'est prendre un globule rouge dans son état jeune et puis l'empêcher de produire à sa surface des antigènes importants.
Ah.
Donc on intègre quelque chose dans son ADN, hein, et puis après le globule rouge ne fait pas apparaître à sa surface l'ABO, le D et d'autres antigènes très importants.
Qui deviendrait un son universel.
Exactement. Et donc si on combine les deux technologies, être capable de produire in vitro des globules rouges et en plus être capable de les éduquer pour qu'ils n'écriment pas à leur surface des antigènes d'importance transfusionnelle, on peut très bien imaginer que dans quelques années, on aura tous dans notre laboratoire deux petites poches magiques qu'on pourra sortir dans un cas d'impasse.
Et ça réglerait définitivement le problème
voilà.
pour tout le monde.
Alors pour l'instant, il faut arriver okay. à des dimensions industrielles. On a des problèmes de rendement, donc on y arrive, mais pas dans des quantités suffisantes pour arriver à de nombreuses poches de sang. Donc il y a du travail encore technologique à faire.
Mais vous pensez que, quoi, dans 30 ans, 50 ans, dans quelle mesure pensez-vous ?
Ah, je pense que dans une dizaine d'années, c'est...
D'accord, ah, donc on est quand même
oui,
pas loin.
On arrive gentiment.
C'est une excellente nouvelle, j'imagine, pour toutes les personnes.
Ce sera pour des situations exceptionnelles, mais effectivement.
Oui, bien entendu. Alors, comment est-ce qu'on peut donner son sang ? Où peut-on le faire ? Et de quoi faut-il tenir compte ? De quoi faut-il tenir compte ? On l'a déjà dit, mais voilà, on peut venir ici au centre de transfusion... Aux horaires
Alors,
d'ouverture.
Exactement. On vient aux horaires d'ouverture, mais on peut venir librement ou sur rendez-vous. On peut prendre des rendez-vous en ligne. Il y a un agenda en ligne qui permet aux donneurs aussi de réserver sa place. Mais on peut venir aussi avec des amis à n'importe quelle heure dans les heures d'ouverture. Et puis, il faut compter pour la première fois quand même une bonne heure, hein, parce que c'est un peu surprenant de donner son sang. Si c'est la première fois, on aura peut-être une réaction auquel on ne s'attendait pas. Il faut arriver en bonne forme, faut pas être malade ou fatigué. Et puis voilà, on remplit le questionnaire, il y a une infirmière qui prend soin de vous, qui vous explique tous les petits détails. Et puis après, vous êtes invité à prendre une collation, durant laquelle ça nous permet de vous surveiller pour être sûr que tout se passe bien. Et puis, vous pouvez rentrer chez vous et vous êtes reconvoqué 4 mois ou 3 mois plus tard. Et si on trouve quoi que ce soit d'anormal sur vos analyses, vous êtes immédiatement informé. On vous laisse pas, on n'attend pas 4 mois pour que vous reveniez pour vous annoncer ça.
Tout ça, j'ai vu dans un anonymat tout à fait préservé. Même les petites tables ont rempli, les questionnaires sont munis. Je mettrai une illustration d'ailleurs de petits paravents.
Voilà, il y a des isoloirs pour remplir le questionnaire. Et puis après, pour que le patient ne voit jamais, ne puisse jamais deviner l'identité de son brave donneur, l'anonymat est réglé par des numéros de prélèvement et des numéros de donneur dès l'entrée du donneur au centre.
Oui, très bien, très bien. Alors, comment se déroule une séance ? J'ai bien compris, on est accompagné, on va pouvoir également s'hydrater et s'alimenter un petit peu. Ça, c'est plutôt après le don ?
Alors, vous êtes invité à boire avant, après, pendant, il n'y a pas de problème. C'est plutôt après le don, parce que après, c'est un moment où on se relaxe, et puis avant de repartir travailler, voilà, c'est un petit moment de repos. Et puis, comme j'ai dit, c'est un petit temps d'observation aussi pour nous. Donc, il faut compter une dizaine de minutes pour remplir votre questionnaire. On vérifie très sérieusement votre identité, parce que pensez bien qu'une confusion de personnes serait dramatique. Ensuite, l'infirmière vous voit pendant 15 minutes. Elle contrôle que vous avez assez d'hémoglobine avec une petite piqûre au bout du doigt. Elle contrôle votre pression sanguine aussi pour pas qu'elle soit trop haute ou trop basse. Et puis après, vous allez en salle. Le prélèvement, il dure 7 à 15 minutes. Ça se prélève par gravité, hein, c'est-à-dire que le sang descend dans une poche et puis il est strictement pesé, ce sang, parce qu'on prélève maximum 450 millilitres. Hein, c'est très, très strictement surveillé. Et après, on vous retire l'aiguille, un petit pansement, un petit peu compressif, et puis vous pouvez aller vous ressourcer à la cafétéria.
Très bien. C'est une aiguille...
C'est une aiguille qui a la même taille que les aiguilles des prises de sang.
Voilà, et ça se fait au bras, j'imagine.
Et ça se fait au bras, en général, dans un veine du pli du coude.
Donc on ne peut pas dire que ce soit douloureux, c'est un petit pincement.
Et ça voilà. Pique.
Selon vous, dans 10 ans, eh bien, ces problématiques n'auront quasiment plus cours alors?
Non, pas à ce point-là. Non, non. Je pense qu'il y a des problèmes pour certains patients qui seront réglés, les patients justement qui ont du sang qui est rare. Par contre, je suis soucieuse et je pense qu'il faut continuer à encourager les jeunes à donner leur sang, parce qu'on a encore besoin de sang pour les dizaines d'années qui suivent pour soigner nos patients. Donc je pense que c'est plutôt important de ne pas laisser comme message que la technologie va remplacer ces dons généreux.
Mmh. Alors voilà, c'est l'appel que l'on veut lancer pour terminer cet entretien. Donnez votre sang, c'est extrêmement important, ça sauve des vies, ça règle des situations d'urgence. Alors effectivement, il y a le centre de transfusion ici à OHUG, à Genève. Y a-t-il d'autres lieux où assez facilement on peut aller donner? Y a-t-il des puces par exemple?
Alors, il y a des collectes mobiles qui ont lieu, dont l'agenda est indiqué sur le site internet, qui ont lieu autour de, dans la ville de, dans la, le canton de Genève. Et on prélève sur ces collectes mobiles à peu près un tiers de notre approvisionnement.
Je vous remercie beaucoup. Et alors, pour en terminer, quels sont pour vous les défis prochains de l'hématologie?
Les défis prochains de l'hématologie, on part maintenant dans de la thérapie cellulaire de plus en plus. C'est réinfuser des globules blancs éduqués à attaquer un cancer. C'est, et puis les défis plus précisément de la transfusion sanguine, ça va être de continuer à soutenir tous ces traitements compliqués de transplantation, de chirurgie complexe, avec le sang le plus adéquat possible. C'est comme ça que je vois un peu les projets futurs.
Okay. Peut-on dire que le sang, cette matière précieuse, n'a plus de secret pour les hématologues?
Non. Donc le sang, j'ai osé dire que c'était une soupe, mais c'est un petit peu vrai. C'est quand même des cellules vivantes mêlées à des protéines. On n'arrive jamais à un produit d'une pureté comme un médicament. Donc bien que la loi dise que c'est un médicament, le sang, ça reste encore un produit quand même très variable et très fragile.
D'accord. Et comment est-il produit à l'intérieur du corps, en quelques mots?
Alors le sang, il est produit au niveau de la moelle, on appelle l'hématopoïèse, comme on dit, c'est, les fabriques de sang sont dans nos os du bassin et au niveau du sternum quand on est adulte, et c'est là qu'il y a ce qu'on appelle la moelle osseuse, et de là sont produits à partir des progéniteurs de sang, les plaquettes, les globules blancs, les globules rouges.
Ok. Et alors, est-ce qu'on peut dire que parmi les maux les plus durs qui puissent affliger le sang, c'est les leucémies, c'est ce type de maladie?
Voilà, la leucémie, c'est des cellules de la moelle qui commencent à muter et puis à prendre un avantage de prolifération et qui commencent à devenir des cancers du sang.
Dans ce cas-là, est-ce que peuvent jouer un rôle les transfusions sanguines ou pas?
Alors les transfusions sanguines jouent un rôle absolument essentiel parce que ce qui va se passer, c'est que pour traiter un cancer du sang, il faut tuer les cellules cancéreuses. Donc le patient se retrouve pendant des semaines dans une dépendance totale de transfusion parce qu'il a subi une chimiothérapie ou une radiothérapie qui met sa fabrique de sang personnel complètement à plat. Donc effectivement, impossible de traiter une leucémie sans un soutien important de transfusion.
D'accord, donc d'où l'intérêt est de donner effectivement son sang. Une dernière petite question, on arrêtera là pour aujourd'hui. Les hématologues s'occupent-ils, à proprement parler, de la composition du sang ou également de sa circulation?
La composition du sang, je dirais.
C'est vraiment ça. C'est vraiment le focus sur la voile. Merci beaucoup, docteur Sophie Valfogel-Abramowski, pour toutes ces informations. Vous êtes donc médecin responsable au centre de transfusion sanguine ici au HUG et également hématologue. Merci.
Merci.
www.libradio.org. La radio qui vient à ta rencontre. Thank you.